Brière. Et sans attendre, moi, je vais passer la parole à Nathalie Arthaud.
Chers amis, chers camarades, travailleuses, travailleurs, la campagne pour la présidentielle est lancée et je voudrais discuter des objectifs qui sont les nôtres et du combat que nous avons à mener. Habituellement, les campagnes électorales s'organisent autour de l'affrontement gauche-droite, avec d'un côté la droite qui revendique une politique ouvertement pro-patronale et de l'autre le Parti socialiste qui tente de plaire, ne serait-ce qu'en parole, à l'électorat populaire. Cette fois, les principaux candidats de gauche et de droite ont choisi de faire du terrorisme et des migrants le centre de la campagne. C'est le fonds de commerce que se disputent Le Pen et Sarkozy. Mais, comme Hollande ne peut pas rejouer la comédie de « Mon ennemi, c'est la finance », c'est aussi sur ce terrain qu'il espère tirer son épingle du jeu. Alors cela donne lieu à un petit jeu à trois qui fait une campagne sécuritaire, anti-immigrée et xénophobe répugnante. Cela contribue à alimenter un climat anxiogène et cela renforce les pires préjugés et encourage les plus racistes. Eh bien, il ne faut pas rester à regarder. Contre cette campagne démagogique, il faut que les travailleurs mettent en avant leurs préoccupations et défendent leurs propres intérêts matériels et politiques. Il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays. Et s'il y a des salariés qui vont au boulot la peur au ventre, ce n'est pas à cause du danger terroriste, c'est de peur d'être licencié. C'est parce que les cadences et la charge de travail ne cessent d'augmenter. C'est parce que la pression des cadres et des chefs est de plus en plus insupportable. Alors, affirmer son droit à un emploi, à un salaire, à une retraite digne, c'est une nécessité vitale pour chacun d'entre nous. Des centaines de milliers de salariés du privé, du public, se sont battus contre la loi El Khomri. Ils ont ainsi dénoncé l'augmentation du temps de travail, la précarité, les mensonges patronaux sur le prétendu dialogue social en entreprise. Et beaucoup parmi les travailleurs ont été solidaires et se sont reconnus dans les revendications mises en avant. Eh bien, il faut que le monde du travail continue de s'exprimer ainsi dans les élections. C'est pourquoi, dans cette élection, nous appelons les travailleurs à dénoncer la politique patronale, à affirmer la nécessité de prendre sur les profits pour garantir les emplois, pour répartir le travail entre tous, de façon à combattre le chômage et pour augmenter les salaires. Crise ou pas crise, la classe capitaliste continue d'accumuler les profits et la grande bourgeoisie à s'enrichir avec la collaboration active de tous les gouvernements. Alors nous devons affirmer que les travailleurs ont le droit et le devoir de défendre leur peau. Nous appelons les travailleurs à affirmer que le monde du travail n'a pas à être sacrifié sur l'autel du grand capital. S'exprimer, se rassembler le plus nombreux possible pour faire entendre le camp des travailleurs au premier tour, c'est ce qu'il y a de plus utile à faire dans ces élections. Parce que l'enjeu, ce n'est pas de savoir qui sortira vainqueur du second tour. On le sait d'avance, les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en 2017 sera un ennemi des travailleurs. Choisir parmi Sarkozy, Juppé, Hollande, Le Pen, c'est choisir parmi ses ennemis celui qui piétinera nos intérêts à partir de mai 2017. C'est accepter par avance d'être trompé et sacrifié. Tous aspirent à gouverner pour le compte de la bourgeoisie. Ils raisonnent tous du point de vue des intérêts patronaux. Ils défendent tous une politique pour aider le patronat, pour baisser, comme ils disent, le coût du travail, pour faciliter la compétitivité et les profits. Mais c'est toujours sur le dos des travailleurs que cela se fait. À droite, Sarkozy, Juppé et Fillon se déchirent pour accéder à la bourgeoisie. Mais ils sont tous d'accord pour faire encore reculer l'âge de départ à la retraite. Ils sont d'accord pour considérer que les salariés ne travaillent pas assez et qu'il faut mettre fin aux 35 heures. D'accord pour dire que les fonctionnaires sont trop nombreux et les chômeurs trop bien traités. D'accord pour baisser les impôts patronaux et faire reculer les services publics. Et si la droite peut présenter des programmes aussi anti-ouvriers, c'est que les socialistes au pouvoir ont préparé le terrain. La droite ne fait en réalité que reprendre le travail là où l'ont laissé Hollande, Valls et Macron. Parce qu'au pouvoir, la gauche et la droite se remplacent, mais se passent le relais. Et Le Pen aspire exactement à la même chose. Le FN n'a pas eu l'occasion de le montrer en accédant au pouvoir. Alors, certains autour de nous se disent qu'il faut peut-être l'essayer. Mais Le Pen, c'est Hollande et Sarkozy en pire. C'est du faux neuf. Le Front National n'a pas le passif de la gauche et de la droite au gouvernement. Mais il a un passé politique. Le Front National, c'est la France de Vichy et de l'Algérie française, avec une grosse couche de maquillage. Le Pen père fut élu député en 1956. À l'époque, il était parachutiste torsionnaire en Algérie. Il est aujourd'hui mis de côté, mais au cœur du Front National, il y a toujours les mêmes idées. L'anticommunisme, l'hostilité aux syndicats, aux grèves, aux travailleurs qui se battent. Pour dénoncer les migrants, les pauvres parmi les pauvres, Marine Le Pen n'a pas de mots assez durs. Mais quand il y a une lutte contre les vrais privilégiés, contre les riches dont elle fait partie, elle est de l'autre côté de la barricade, du côté de l'ordre et du gouvernement. Et on l'a vu lors des grèves et des manifestations du printemps contre la loi travail. Et souvenez-vous comment Marion Maréchal Le Pen a traité les salariés d'Air France de voyous qu'il fallait mater avec l'armée. Alors, voter pour l'un ou l'autre de ces candidats, quand on appartient au monde ouvrier, c'est voter contre son camp, c'est voter contre ses intérêts, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Dans cette élection, il faut affirmer nos droits de travailleurs, notre conscience d'appartenir à un camp opposé à la bourgeoisie et de tous ses serviteurs politiques. À les entendre tous, de Le Pen jusqu'à Hollande, les seuls problèmes du pays, ce sont Calais, les migrants, la sécurité et la montée du communautarisme qu'ils contribuent à créer eux-mêmes par leurs mille et une provocations quotidiennes. Leur campagne n'a qu'un seul but, celui de faire des voix en s'appuyant sur les peurs et en flattant les préjugés racistes. C'est de la diversion et c'est de la démagogie, parce qu'ils ne sont pas plus capables de maîtriser l'arrivée de migrants que d'éradiquer le terrorisme. Ni Hollande, ni Sarkozy, ni Le Pen ne freineront l'arrivée des migrants. Ils peuvent construire des murs, des barbelés, creuser des fossés, mettre des miradors. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait déjà dans nombre de pays. Mais ils n'empêcheront pas la vague migratoire, parce qu'on a tous en tête ces images d'Alep et de ces villes bombardées en Syrie et en Irak. On sait que tant que les hommes auront des jambes et de l'énergie pour marcher, eh bien ils essaieront de sauver leur peau, comme nous tous ici. L'extrême droite, la droite, multiplie les pétitions contre l'accueil des réfugiés, tandis que le gouvernement se targue de défendre une politique plus humaine. Mais regardez comment les socialistes présentent eux aussi les migrants. Non pas comme des victimes, mais comme des indésirables. Non pas comme des femmes et des hommes qui sont nos semblables, mais comme des fardeaux. Qu'un élan de solidarité s'exprime et la propagande se met en marche pour marteler qu'il ne faut pas créer d'appel d'air. Tout est fait pour que nous taisions nos sentiments de fraternité. Tout est fait pour nous convaincre que les migrants représentent une menace pour nous et nos enfants. C'est de la démagogie aussi stupide qu'infecte. Le résultat de tout ça, c'est que ces dirigeants rendent la vie de ces femmes et de ces hommes plus plus insupportable encore. Et puis, il flatte les préjugés les plus abjects dans la population et il pousse les plus racistes à passer aux actes. Ce sont des pyromanes. Et les victimes de cette démagogie ne seront pas seulement les migrants d'hier et d'aujourd'hui. Nous en paierons tous les conséquences. Car les politiciens qui justifient le rejet des étrangers ne spéculent pas que sur des préjugés et des fantasmes. Ils invoquent aussi le chômage élevé, la pénurie de logements, la saturation de notre système de soins. C'est une façon de matraquer l'idée qu'il n'y a déjà pas assez pour tous. Cela sert à justifier la politique anti-ouvrière en nous enfonçant dans le crâne qu'il est vain de revendiquer et qu'il faut forcément se serrer la ceinture. C'est une façon, encore, de nous mettre en concurrence permanente, de nous opposer les uns aux autres, ceux qui ont un travail à ceux qui sont au chômage, en intérim ou en CDD. C'est un instrument de division. Avec cette campagne sur l'identité nationale, l'immigration, les Sarkozy et les Hollande nous enfument pour ne pas avoir de compte à rendre sur la misère qu'ils ont contribué à fabriquer et pour cacher les milliards accumulés dans les mains d'une minorité. Ils ne cessent de répéter qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais ce sont eux qui la fabriquent, la misère, en pillant les richesses des pays pauvres partout sur la planète et en s'acoquinant avec les pires dictatures. Ils la fabriquent en Irak, en Syrie, par leurs bombes et leurs manœuvres. Ils la fabriquent ici, par le chômage et la précarité. Ils la fabriquent pour que la minorité capitaliste s'enrichisse toujours et encore. Alors, dans cette élection, montrons qu'il y a des travailleurs qui ne se trompent pas d'ennemis. Affirmons que les travailleurs n'ont pas à se battre entre eux pour se partager la misère. Affirmons qu'il y a bien deux mondes dans la société. Celui des riches et des pauvres, celui des exploiteurs d'un côté et de l'autre côté, le monde des exploités qui regroupe des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes confessions. Affirmons pour tous les exploités de cette terre la liberté de circulation et d'installation. Accueillons les migrants à bras ouverts, ils ont leur place dans le combat qui est le nôtre. Imposer le contrôle sur les richesses que nous produisons tous collectivement pour s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. À côté de toute cette campagne contre les migrants, il y a encore tous les débats sur le terrorisme. Les débats sans fin sur les fichiers S, sur l'état d'urgence, sur l'organisation de la police et de l'armée, sur la construction des prisons, les amalgames permanents entre terroristes et musulmans sous couvert de grandes questions comme la laïcité, la nature de l'islam. Du Front National jusqu'à Hollande, tous se complaisent dans des postures autoritaires et répressives. Mais ce n'est pas cette course à l'échalote sécuritaire qui empêchera les vocations terroristes de naître. Notre société est malade, elle pourrit de l'intérieur. Que des jeunes de 15 ans, 18 ans, 20 ans rêvent de se faire exploser et de tuer le plus de monde possible pour aller plus vite au paradis est une des expressions les plus abjectes de cette décadence. Il n'y a plus d'idéal, de projet collectif. C'est le culte de la réussite, de l'enrichissement personnel. On est censé s'extasier devant les milliardaires alors que la misère s'étale partout sous nos yeux. La société capitaliste marginalise et exclut. Elle nous met en concurrence permanente. Elle nous force à nous forger une carapace. Elle nous pousse au chacun pour soi, à l'isolement, à la haine de l'autre. C'est cette déshumanisation qui fait le lit de la délinquance et du fanatisme religieux. Il est facile de tenir des discours électoralistes et de promettre toujours plus de répression. Mais changer cette réalité-là, c'est autre chose. Mais tant que nous ne la remettons pas en cause, la société ne fera que s'enfoncer dans la barbarie. Et je pense en particulier aux plus jeunes. Nombre d'entre eux ne s'intéressent pas à cette élection présidentielle. Mais il y a autre chose. Il y a l'organisation de cette société. En plus d'avoir à subir le chômage et la précarité, tous ces stages non payés ou sous-payés, où la jeunesse constitue de la chair à patron, on leur dit maintenant qu'ils vont devoir faire avec la menace réactionnaire. Eh bien, je ne peux pas croire que la jeunesse se résignera à vivre dans ce monde-là. Les jeunes ont toujours été l'aile marchande des révoltes et des révolutions. Alors, vous, les jeunes qui êtes là et qui vous intéressez à la politique, vous devez être aux avant-postes du combat. Défendez la perspective de renverser l'ordre capitaliste. Rejoignez le camp des travailleurs, qui est la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, enfin débarrassée des classes sociales et de l'exploitation. Rejoignez-nous dans ce combat pour une autre société. Du côté de ce que l'on appelle la gauche de la gauche, on est bien loin de ces perspectives, y compris au Parti communiste. Dans cette campagne électorale, que propose d'ailleurs le Parti communiste ? De trouver un bon candidat de gauche. Alors que de plus en plus de travailleurs ont compris qu'ils avaient autant d'ennemis à gauche qu'à droite, la direction du PCF leur propose de retomber dans le même piège et les mêmes illusions. Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, voit même son candidat parmi les Montebourg, Duflot, Hamon. Mais ils ont tous été les exécutants de la politique de Hollande. Ils ont applaudi au pacte de responsabilité et à tous les cadeaux patronaux. Ils se sont félicités des accords de compétitivité imposés aux travailleurs à tout chantage patronal. Et c'est dans ce genre politicien que les travailleurs devraient replacer leur confiance et les militants du PCF devraient leur servir de masse de manœuvre. Pierre Laurent est prêt à subordonner son parti sans même se donner la peine de fixer les conditions de son soutien. Il est prêt à soutenir un candidat de gauche sans même exiger quoi que ce soit pour les travailleurs, car les perspectives du PC ne sont pas fondées sur les intérêts et les luttes du monde ouvrier. Elles sont fonction des alliances électoralistes censées préserver ses élus à l'Assemblée nationale, dans les régions, les départements ou les municipalités. Ce sont des calculs stériles, illusoires et démoralisants pour ses propres militants. Exactement comme il l'a fait avec Mitterrand, puis avec Jospin, le PCF doit recréer les illusions dans la gauche gouvernementale et refaire une virginité à des politiciens qui pensent en bourgeois et qui sont attachés à l'ordre bourgeois. En remplaçant la lutte de classe par l'électoralisme, le PCF a désarmé les travailleurs, les a écœurés et désorientés au point que certains, aujourd'hui, regardent du côté de Le Pen. Alors, ce que j'ai à dire à ceux des militants et des sympathisants du PC, pour qui l'étiquette communiste a encore une signification. À tous ceux qui n'ont pas renoncé à agir auprès des travailleurs, dans les entreprises, dans les quartiers, c'est retrouver la confiance dans les travailleurs au-delà de l'état d'esprit actuel. Retrouver les idées qui ont été à la base de la fondation du Parti communiste, justement la rupture avec le Parti socialiste, le rejet de l'union sacrée avec la bourgeoisie, la rupture avec l'État bourgeois, renouer avec les origines révolutionnaires de votre parti. Ce n'est sûrement pas Jean-Luc Mélenchon qui défendra ces idées-là. Mélenchon, que le PCF a soutenu en 2012, et qu'il pourrait soutenir encore cette fois, est comme tous les autres. Il défend une politique pour la France. Comme s'il pouvait y avoir une bonne politique à la fois pour le grand patronat et pour les travailleurs. Comme si leurs intérêts n'étaient pas contradictoires. Mélenchon est en guerre contre beaucoup de choses. Contre les traités européens, contre la politique de l'Allemagne et ses retraités, contre les États-Unis, contre la Ve République, contre les médias aussi souvent. Mais pas contre le grand patronat. Pas contre son pouvoir sur l'économie et pas contre le système d'exploitation qui est à la base de la condition ouvrière. Avec d'autres, y compris Le Pen, Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. Mais en prétendant que l'Union européenne et ses traités sont responsables de tous les maux des travailleurs, il détourne l'attention de la classe ouvrière des vrais responsables du chômage et des bas salaires. Les patrons bien français n'ont pas besoin d'aucun diktat de Bruxelles pour démolir les droits des travailleurs ou pour tirer les salaires vers le bas. La loi travail, les licenciements d'Alstom ou les 6 millions de chômeurs, ce n'est pas la faute de Bruxelles, mais des capitalistes et des gouvernements bien de chez nous. Et puis, à côté de ça, Mélenchon nous sert la bonne vieille soupe réformiste. Mais regardez Tsipras en Grèce. Tsipras est un Mélenchon qui a réussi, parce qu'il a été élu. Et que fait-il de son pouvoir? Eh bien, il a fini par s'aplatir face aux diktats de la finance, et aujourd'hui, il sert de courroie de transmission pour imposer plus d'austérité encore au peuple grec. On ne peut pas amadouer la finance en se targuant du soutien électoral de son peuple. Même pour réduire un peu la part du lion, il faut que la bourgeoisie ait peur de tout perdre. Pour être du côté de la classe ouvrière, il faut être contre le grand capital. Il faut être résolu à s'appuyer sur la combativité des travailleurs pour inverser leur rapport de force. Et pour avoir une chance de gagner, il faut être prêt à aller jusqu'au bout du combat, c'est-à-dire jusqu'à exproprier la bourgeoisie. Et Jean-Luc Mélenchon ne fait pas partie de ce camp-là. Au lendemain de l'élection, qu'est-ce qui changera pour nous? Nous irons au travail. Beaucoup d'entre nous iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confrontés au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires invisibles, mais tout puissant. On se retrouvera confronté à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, quand bien même on a perdu son boulot. Et on se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Rien de fondamental n'aura changé, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploiter, ni cet ordre social dominé par l'argent et la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Et les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Cela, beaucoup de travailleurs le savent, parce que, élection après élection, ils en ont fait l'expérience. Ils savent qu'il ne faut pas prendre les promesses des politiciens pour argent comptant. Mais, faute de lutte sociale d'ampleur, toute la vie politique se résume à ces élections. Chaque campagne électorale donne lieu à un spectacle où jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, les politiciens relayés par les médias nous jouent la comédie du changement. Et c'est ainsi que repart la machine à fabriquer des illusions électoralistes. C'est ainsi que les électeurs sont dressés pour voter utile ou alors pour essayer quelqu'un qui n'a jamais gouverné ou pour voter pour le moins pire. Mais encore une fois, le mieux que nous pouvons faire dans cette élection en tant que travailleurs est de nous exprimer. Beaucoup parleront avec mépris d'un vote de contestation, de protestation ou encore d'un vote d'expression. Eh bien, nous le revendiquons. Nous appelons les travailleurs à voter pour exprimer leurs intérêts matériels et politiques. Cela ne changera pas la société. Cela ne modifiera pas le rapport de force entre le patronat, avec le patronat et le gouvernement, c'est vrai. Il n'y a que l'action collective des travailleurs qui peut le faire. Un mouvement social puissant, comme ceux qu'on a connu en mai 1936 et en 1968. Mais regardez la mobilisation contre la loi El Khomri. Elle n'a pas réussi non plus à inverser le rapport de force et à faire reculer le gouvernement. A-t-elle été pour autant inutile? Sûrement pas. Parce qu'en se montrant, en défendant leurs intérêts pendant 4 mois, les travailleurs conscients et combatifs ont contribué à élever la conscience du monde du travail en général. Le patronat, le gouvernement, les médias bien-pensants ont déversé des tombereaux d'insultes et de calomnies pendant ce mouvement contre la loi travail. À les entendre, les grévistes et la SNCF, les grévistes de la SNCF et des raffineries étaient des preneurs d'otages, les terroristes, les manifestants étaient des casseurs d'hôpital pour enfants, et un éditorialiste a même comparé la CGT à Daesh. Eh bien, l'opinion ouvrière a résisté à tout cela, parce qu'une fraction des travailleurs ne lâchait pas le combat. Eh bien oui, seuls ceux qui se battent pour leurs idées, pour leurs objectifs, pour leurs perspectives, peuvent influencer la situation. La résistance, cela commence par dire que l'on n'est pas d'accord. La résistance des travailleurs dépend de ce qu'ils ont dans la tête. Alors exprimer nos intérêts contre nos ennemis, c'est le premier acte de résistance. Et ne craignons pas d'être minoritaires. À quoi sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012 ? Et il faudrait recommencer avec un autre ? Chercher à voter pour le moins pire est également un piège. La situation ne peut qu'empirer pour le monde du travail s'il ne se bat pas collectivement. Et c'est cela qu'il faut préparer. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de radicalisme ou de conscience. S'abstenir, c'est se résigner, c'est se taire. Encore une fois, si nous ne défendons pas nos idées, nos perspectives, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Alors on peut nous enlever beaucoup de choses. Notre boulot, notre salaire, notre logement, mais on ne peut pas nous enlever nos idées, nos convictions, notre dignité. Il faut les exprimer. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, la moindre voix compte et peut porter. Alors, il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis la candidate de lutte ouvrière. Les institutions sont ainsi faites qu'il fallait un nom, et mes camarades m'ont choisi. Je serai donc en première ligne dans cette élection, et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on m'en donnera la possibilité. Mais ma campagne sera ignorée par les médias jusqu'aux 15 derniers jours où ils seront un peu contraints par la loi de m'inviter. Alors, il ne faut pas compter sur les médias. Mais ce n'est pas nouveau, parce que le mouvement ouvrier est né avant la télé, et avec la grande presse contre lui, et bien malgré tout cela, il s'est développé. Et il s'est développé grâce aux militants qui faisaient circuler l'expérience ouvrière, les idées et les valeurs communistes. Et bien, il faut faire la même chose. Et pour que cette campagne soit réussie, il faut que ce soit notre campagne à tous, il faut que ce soit votre campagne. Il faut que ce soit une campagne militante. Il faut que vous multipliez les discussions avec vos camarades de travail, dans votre famille, auprès de vos amis, dans votre voisinage. Il faut que chacun d'entre nous essaye de convaincre une, deux, trois personnes et leur donne envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Rien n'est à négliger. Toutes les discussions seront utiles. Cela dépend de la ténacité et de la force de conviction de chacun d'entre nous. Si nous sommes plusieurs milliers à entraîner 5, 10, 50 personnes à voter, et si ces personnes en entraînent elles-mêmes une ou deux, nous aurons fait une bonne campagne. Cela nous donnera aussi l'occasion de nous rassembler et d'associer des jeunes et des moins jeunes à cette campagne. Et cela nous donnera la possibilité de grandir, de renforcer les équipes militantes pour construire le parti qui est nécessaire au monde du travail. Aujourd'hui, du Front National jusqu'au Parti Socialiste, la bourgeoisie a une variété de partis à sa disposition. Mais la classe ouvrière n'en a aucun qui exprime ses intérêts de classe. La constitution de parti a pourtant joué un rôle essentiel dans le développement du mouvement ouvrier. Des premiers partis socialistes au XIXe siècle, au Parti communiste, dans les années 1920, ils ont permis à ceux qui refusaient le capitalisme de s'organiser et donc de décupler leurs forces. Ils ont permis qu'il existe une autre opinion que celle des partis bourgeois, que circulent les idées contre l'exploitation, contre le nationalisme, ses avatars racistes et colonialistes, des idées contre les guerres aussi. Ils ont aussi permis que les travailleurs existent, non seulement dans la défense de leurs intérêts matériels, mais aussi politiquement, en tant que classe sociale postulant à la direction de la société. Alors oui, il nous faudrait un parti des travailleurs, un parti qui dissipe les illusions, démasque les faux amis, cible les vrais ennemis et diffuse sur chaque question un point de vue communiste. Un tel parti ne se formera pas en un jour. Il faudra surtout des luttes massives et déterminées. Mais les élections peuvent contribuer à une petite échelle à ce que se regroupent ceux qui veulent combattre pour un autre monde. Alors il nous faut profiter au maximum de cette campagne pour avancer sur la voie d'un tel parti. L'Élysée, ni Arlette Laguiller, ni moi n'en avons jamais rêvé. Ni moi, ni aucun camarade de lutte ouvrière n'aspirons à prendre quelque responsabilité que ce soit dans ce système qui est basé sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Je l'ai déjà dit, le pouvoir d'État, oui, nous voulons le conquérir avec la classe ouvrière. Nous sommes communistes révolutionnaires. Et nous avons la conviction que les travailleurs peuvent établir leur propre pouvoir étatique et s'en servir pour exproprier la bourgeoisie et créer un monde débarrassé de l'exploitation et capable de répondre aux besoins de tous. Ce n'est évidemment pas ce qui est en jeu dans cette élection présidentielle. Mais cela signifie qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ceux qui voteront pour ma candidature voteront pour faire entendre le camp des travailleurs. Leur vote ne servira pas de tremplin à un arriviste. Il ne sera pas déformé, il sera sans ambiguïté. Personne ne pourra se tromper sur le sens de ce vote. Nombre de gens et de catégories sociales sont suffisamment en colère pour chercher à exprimer leur mécontentement. Mais ils l'exprimeront de bien des façons différentes et parfois même de la pire des façons. Mais le mécontentement qui s'exprimera sur ma candidature aura un caractère ouvrier. Ce sera un vote de rejet de tous ces politiciens prêts à servir la soupe à la bourgeoisie. Ce sera un vote qui affirmera les droits, les intérêts et les perspectives du monde du travail. Ce sera un vote qui affirmera que quel que soit l'élu en 2017, nous savons que nous serons attaqués et nous ne nous laisserons pas faire. Ce sera un vote de dignité et de conscience ouvrière qui affirmera que la société peut se passer de la bourgeoisie, pas des travailleurs qui font tout tourner et qui produisent toutes les richesses.